Galade 100.9.
Parlons équilibre. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Parlons Équilibre, une émission préparée par l'association Équilibre et moi. Nous recevons aujourd'hui les docteurs Morel et Olezinski, hépato-gastro-entérologues à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche, qui viennent nous parler de la soirée événement Mars Bleu qui se tiendra le 28 mars de 18h à 21h à la salle des fêtes de Glézé. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Mars bleu est le mois dédié au dépistage du cancer colorectal qui touche près de 45 000 hommes et femmes chaque année en France et en tue 18 000. Pour commencer, docteur Morel, pouvez-vous nous dire à quoi correspond Mars bleu ?
Eh bien, comme vous venez de le dire, c'est un mois dédié à la sensibilisation de la population générale sur ce qu'est le cancer colorectal et comment on peut le prévenir. Vous l'avez bien expliqué juste avant, c'est un enjeu de santé publique. Il s'agit quand même du deuxième cancer, il s'agit du deuxième cancer le plus mortel en France, malheureusement, avec 17 000 décès par an, un cancer qui touche aussi bien l'homme que la femme. C'est le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme et le deuxième le plus fréquent chez la femme. Donc ça, c'est déjà important de connaître l'enjeu que représente le cancer colorectal. Et ce mois est là pour aussi sensibiliser la population générale sur les moyens et l'importance du dépistage. Parce qu'il faut savoir que si on dépiste le cancer colorectal suffisamment tôt, au moment où il existe déjà ou même avant qu'il n'apparaisse, eh bien on peut soit prévenir sa survenue, soit faciliter sa guérison. Et donc un cancer dépisté suffisamment tôt et guéri 9 fois sur 10.
Dites-nous, docteur Olezinski, à quoi correspond le cancer colorectal et comment survient-il ?
Alors, le cancer colorectal est un cancer qui se développe sur le gros intestin, qu'on appelle le côlon, et le rectum, qui est sa partie terminale juste avant l'anus. Le cancer du côlon se développe sur la paroi interne du gros intestin qui est fait de plusieurs couches et c'est la couche la plus interne qui va faire le lit du cancer où il y a quelques cellules qui vont parfois dégénérer puis se multiplier et créer ainsi un cancer qui va ensuite grossir, s'étendre à toutes les couches de l'intestin et puis parfois aller via le sang ou ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques, aller dans les ganglions et puis aller faire ce qu'on appelle des métastases un peu plus loin. Dans la plupart des cas, le cancer du côlon se développe sur des petites tumeurs bénignes qu'on appelle des polypes, qui se développent sur cette paroi interne de l'intestin. Alors tous les polypes ne vont pas devenir cancéreux, hein, il n'y en a qu'une petite partie, 2 à 3% qui vont devenir cancéreux. Mais on peut donc essayer de détecter ces polypes pour essayer de les traiter avant qu'ils ne se transforment en cancer. C'est là tout l'intérêt du dépistage, détecter ces polypes et les traiter avant qu'ils ne deviennent cancéreux.
D'accord. Et donc, le dépistage a donc pour but d'enlever ces polypes, c'est ça ? Mais par quel moyen ?
Alors, le dépistage en lui-même, comme on l'entend là pour Mars Bleu, c'est le dépistage organisé, donc qui est dédié pour la population générale. Et ce dépistage en lui-même ne permet pas d'enlever les polypes, mais comme le disait bien mon confrère, il va tenter de les repérer. Il faut savoir que les polypes et le cancer et un cancer du côlon vont engendrer des petits saignements dans la cavité du côlon. Et ces petits saignements ne sont pas visibles à l'œil nu. Quand on va aux toilettes, ça ne se voit pas dans les selles. Et ça, grâce à ce test, on va pouvoir détecter ce sang invisible à l'œil nu. Et dès lors que le test sera positif, on aura alors une indication à faire une coloscopie. Mais ça, on pourra en parler dans un second temps. Ce qui est important avec ce test, c'est de savoir qu'il est simple, qu'il est rapide, qu'il est propre. Souvent, les gens ont peur de ce test et qu'il est réalisable à la maison, en une seule fois. Parce qu'il y avait un test anciennement qui devait nécessiter plusieurs prélèvements. Là, ça nécessite un seul prélèvement de sel à domicile, sans qu'on ait à toucher les selles, avec un dispositif dédié, et qui permet ensuite d'envoyer ce petit prélèvement par la poste au centre dédié pour le dépistage et qui va faire l'analyse et nous donner la réponse de la positivité ou de la négativité du test.
D'accord. Donc, en fin de compte, c'est effectivement, c'est très simple. Et si le test est positif, le patient a forcément un polype ou un cancer ?
Alors non, pas forcément. Le test va être positif. Ça veut dire qu'il a a priori détecté un petit saignement microscopique au niveau des selles qui pourrait indiquer la présence d'un polype ou d'un cancer dans un cas un peu plus rare. Le seul moyen de le confirmer ou de l'infirmer, c'est donc de réaliser un examen qui va aller voir l'intérieur du côlon. Et ce qui est préconisé dans ce cas-là, c'est la réalisation d'une coloscopie qui va permettre d'aller voir visuellement à l'aide d'une caméra l'intérieur du gros intestin pour détecter ces éventuels polypes ou ce cancer débutant qui aurait pu être détecté par ce test de recherche de sang dans les selles.
Et à qui s'adresse justement ce test de dépistage ?
Alors, ce test de dépistage organisé, il s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il y a parfois une idée un peu répandue que ça ne touche que les hommes. Donc non, c'est aussi bien pour les hommes et les femmes. À partir de l'âge de 50 ans, tous les deux ans, et jusqu'à l'âge de 74 ans. Néanmoins, ce qui est important de savoir, et ça, lorsque l'on réalise le test, avant de pouvoir réaliser le test, il nous est de poser quelques questions. Et en fait, c'est pour savoir si on n'a pas de sur-risque de faire un cancer, si on sort du cadre de la population générale. Et ça, ça passe par des questions sur la présence ou pas de symptômes digestifs, la présence d'antécédents personnels ou familiaux de polypes de cancer, ou d'autres éventuels facteurs de risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principal facteur de risque quand même du cancer colorectal, c'est l'âge supérieur à 50 ans. C'est pour ça qu'on débute ce dépistage à ce moment-là.
D'accord. Et pourquoi ne serait-on pas éligible si l'on a bien entre 50 et 74 ans ?
Alors, ça va dépendre des critères qui augmentent le risque de cancer colorectal. En fait, si on a, par exemple, dans sa famille, quelqu'un qui a déjà fait un cancer du côlon ou du rectum, dès lors, on a un risque plus important, malheureusement, de faire un cancer. Et donc, on n'est plus éligible à ce test, mais on est éligible à réaliser directement une coloscopie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des antécédents familiaux de cancer colorectal qui peuvent augmenter le risque de faire un cancer colorectal. C'est aussi, par exemple, certaines maladies, comme les maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique notamment.
D'accord. Mais alors finalement, comment sait-on si on doit se faire dépister et quand ?
Alors, il y a le centre de dépistage des cancers qui envoie des courriers aux personnes éligibles, donc toutes les personnes de 50 à 74 ans, pour lesquelles le centre de dépistage n'est pas au courant qu'il y a une autre indication à réaliser, par exemple la coloscopie d'emblée pour un antécédent familial. Donc toutes ces personnes de 50 à 74 ans reçoivent un courrier à domicile qui les invite à réaliser ce dépistage. Pour se procurer le test, c'est de plus en plus facile, puisqu'avant il fallait forcément se déplacer chez son médecin traitant. Depuis 2022, on peut désormais commander son kit sur Internet à l'adresse monkit.dépistage-colorectal.fr ou bien toujours aller voir son médecin traitant ou bien son pharmacien également ou tout simplement son gastro-entérologue si on est déjà suivi. Une fois qu'on a reçu le courrier d'invitation, pour le faire sur le site internet, il y a un numéro qu'on rentre sur le site internet. Ça permet de recevoir par la poste le kit sous une quinzaine de jours à peu près. On réalise son test à la maison, puis on le renvoie par la poste et on reçoit ensuite les résultats qu'on interprète avec son médecin traitant.
Très bien. Allez, petite pause musicale avec Queen.
I want to break free.
I want to break free.
by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Écoutez Queen, I Want to Break Free sur Radio Calade et nous recevons ce soir dans notre émission Parlons Équilibre les docteurs Morel et Olezinski, hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône qui nous parle de Mars bleu et du dépistage du cancer colorectal. Dites-moi messieurs, y a-t-il d'autres facteurs de risque du cancer colorectal ?
Alors, on a déjà parlé que le facteur principal, c'était quand même l'âge, hein, puisque la plupart des cancers du côlon arrivent après 50 ans. Ça, malheureusement, on n'a pas de, on peut pas agir sur le temps qui coule. Par contre, il existe des facteurs de risque sur lesquels on peut agir, notamment la consommation d'alcool, la consommation de tabac. L'alimentation aussi a un rôle important, parce que les consommations, notamment de protéines animales, notamment de viande rouge, peuvent augmenter le risque de cancer colorectal, de même que la sédentarité, comme pour beaucoup de cancers, et le surpoids également. Donc tout ça, ce sont des choses, en modifiant un petit peu son hygiène de vie, on peut réussir à diminuer le risque de cancer colorectal.
Est-ce qu'il existe alors des facteurs protecteurs ?
Ben, tout à fait. En fait, ça, c'est le corollaire des facteurs de risque. Pour se protéger du cancer colorectal, on sait que l'activité physique est un facteur protecteur très efficace. Ah, oui. Et aussi une alimentation variée, notamment riche en légumes et en fruits.
D'accord. Et quels sont les symptômes qui doivent alerter justement les patients ?
Alors, les symptômes du cancer du côlon sont assez variés et arrivent malheureusement parfois à un stade un peu tardif de la maladie, d'où l'intérêt du dépistage, hein, pour détecter le cancer ou les lésions précancéreuses avant qu'arrivent les symptômes, qui sont très variés. Ça peut être des douleurs au ventre, qui n'est pas du tout un symptôme spécifique, hein, la présence de sang dans les selles ou le transit qui se modifie, une constipation qui s'installe, qui n'était pas présente auparavant, qui est nouvelle, ou une alternance entre de la diarrhée, de la constipation, une envie constante d'aller à la selle. Tous ces symptômes ne sont pas spécifiques, mais peuvent faire évoquer un cancer colorectal et nécessiter une consultation, de même qu'une fatigue intense qui peut être liée à une anémie ou encore un amaigrissement qui n'est pas expliqué, non voulu. Tous ces symptômes doivent éventuellement alerter et faire consulter un médecin, bien qu'ils ne soient pas spécifiques de cancer et qui peuvent être aussi liés à des pathologies bénignes. Mais ça nécessite de mettre un peu la puce à l'oreille.
D'accord. Bon, on dit que c'est un cancer silencieux. Lorsque les premiers signes apparaissent, c'est que c'est trop tard ?
Alors, pas forcément. Dans la prise en charge d'un cancer, c'est toujours mieux de le prendre le plus tôt possible, puisqu'on arrivera à le traiter plus facilement et avoir de meilleures chances de guérison, parce qu'on peut guérir du cancer colorectal, même s'il est déjà installé. Donc, ces symptômes... qui arrivent parfois insidieusement, doivent faire consulter un médecin pour essayer de faire la part des choses entre une pathologie bénigne ou la nécessité d'exploration complémentaire pour éliminer le cancer du côlon.
D'accord, donc en parler dans un premier temps à son médecin traitant, c'est ça ?
C'est la première étape, ça reste l'interlocuteur privilégié, et en fonction de son évaluation, il jugera nécessaire de réaliser des examens complémentaires ou d'orienter vers un spécialiste, un gastro-entérologue, pour faire des examens plus poussés, tels la coloscopie par exemple.
D'accord, mais c'est vrai que le niveau de participation actuel au dépistage est très faible, hein, il est je crois de 35%. Comment vous, docteur, à votre niveau, sensibilisez-vous justement la population sur le cancer colorectal ?
Alors, en effet, le taux est très très faible. Il faudrait même normalement qu'il soit au minimum à 45% pour être satisfaisant selon les recommandations européennes. On sait même que le souhait rêvé, ce serait un taux de participation à 65%. Ça permettrait d'éviter quand même chaque année 5700 cancers et 6600 décès. Donc on sait que ce n'est pas négligeable. Mmh. C'est pour ça que, et vous faites bien de poser la question, on a des axes d'amélioration sur l'information et la sensibilisation des patients et de la population générale sur ce dépistage et sur ce cancer. Et donc, quels sont les moyens que l'on a à notre disposition ? Tout d'abord, à la fois par le médecin traitant, mais aussi lors des consultations ou du passage à l'hôpital, on peut avoir certaines petites affichettes, des tracts d'information sur le dépistage et comment le réaliser. Via Mars Bleu, on informe sur ce dépistage, pardon, et à l'aide aussi, par exemple, d'émissions radio comme on le fait aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est important. Et le but de tout ça, c'est aussi un petit peu de dédiaboliser ce dépistage qui fait souvent peur aux personnes. D'une part, parce que il y a la peur de se salir en réalisant le dépistage, parce que la plupart des gens savent qu'il va y avoir un contact avec les selles, mm-hmm. alors que ce contact, en fait, il est indirect. La personne qui va faire son test ne va jamais toucher ses selles, elle va utiliser un petit outil pour faire le prélèvement. Donc déjà, c'est tout à fait propre. Et puis, souvent, il y a aussi la peur du résultat et de l'examen qui suit, qu'est la coloscopie. Et à l'aide de la sensibilisation et notamment de l'événement dont on parlera tout à l'heure, on va insister aussi sur le fait de rassurer les patients sur l'examen qu'est la coloscopie, en expliquant qu'il s'agit d'un examen simple, fréquent, quasiment sans danger. C'est toujours, mm-hmm. on ne peut jamais faire un examen sans aucun risque d'effet secondaire, mais ils sont très rares. Et donc globalement, c'est un examen qui est très bien toléré et très efficace pour dépister ce cancer. Et donc, c'est important d'informer la population à cet égard.
Mmh. Et justement, donc, les informations, nous les avons à l'hôpital, mais est-ce qu'il y a d'autres informations en dehors de l'hôpital ? Est-ce qu'il y a un site internet, par exemple, qui est dédié à cela ? Comment trouver toutes ces informations ? Alors, en dehors de l'hôpital.
Sur Internet, on voit beaucoup de choses. Mm-hmm. Il y a le site e-cancer qui est très bien, donc e-cancer.fr. Le site de l'INCa aussi,
oui.
INCa, c'est l'Institut National de Cancérologie, qui permet d'avoir beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc, notamment, il y a beaucoup, beaucoup de sites. Je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais voilà, c'est deux des principaux sites qui permettent d'avoir des informations sur ce sujet.
D'accord, des sites sérieux.
Oui, tout à fait.
Bien, allez, pour revenir justement, on va revenir à l'événement Mars Bleu que vous organisez le 28 mars. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, cet événement, il faut savoir qu'il est organisé par l'association ISOP, qui est une association issue de l'hôpital nord-ouest de Villefranche-sur-Saône. Avec l'aide de plusieurs services de l'hôpital, que sont le service de gastro-entérologie notamment, le service d'oncologie ambulatoire, le service de radiothérapie et le service de chirurgie viscérale. En fait, il s'agit des services qui sont impliqués dans la prise en charge de ce cancer et dans son dépistage. Donc, c'est un événement qu'on essaye de réaliser de façon annuelle, qui malheureusement a été un petit peu stoppé à cause du Covid. L'événement va se diviser en deux parties. Il va avoir lieu à la salle des fêtes de Glézé, avec le soutien important de la mairie de Glézé. Il va se diviser en deux grandes parties. Une première partie de 18h à 19h30 qui va en fait être réalisée sous forme de stand. Ces stands qui vont se dérouler selon le parcours du patient. Donc, les personnes qui pourront venir à cet événement, il faut savoir d'ailleurs que c'est ouvert à tout le monde et que c'est gratuit. Il n'y a pas de frais pour entrer ni de modalité d'inscription. Vient qui veut. Et bien, les personnes qui vont venir à cet événement, lors de cette première partie de soirée, vont pouvoir suivre le parcours du patient en voyant tout d'abord comment prévenir le cancer colorectal en amont, comme on en a parlé tout à l'heure, notamment à l'aide d'une alimentation variée, avec l'intervention de diététiciennes, ainsi que l'intervention d'enseignants d'activité physique adaptée qui font partie intégrante de la prise en charge de nos patients. Ça, c'est les premiers stands en amont, avec aussi des stands d'activités ludiques, d'activités sportives, pour montrer l'importance, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'activité physique dans la prévention, qu'on appelle primaire, donc en amont, la prévention de ce cancer. Ensuite, le reste du déroulé va permettre de voir comment se réalise le test, pour un peu désacraliser ce test. Et ensuite, en cas de test positif, à quoi correspond une coloscopie ? Donc, il y aura des stands ludiques avec un mur gonflable qui va montrer à quoi correspondent des polypes. Nous aurons éventuellement un dispositif de coloscopie virtuelle qui est assez interactif et qui permet aux personnes de se déplacer dans le côlon et de voir comment se voient les polypes lors d'une coloscopie. Et enfin, en cas malheureusement de diagnostic de cancer, les stands suivants montrent comment va se réaliser la prise en charge, avec notamment nos confrères chirurgiens viscéraux qui seront présents, ainsi que nos consoeurs et confrères radiothérapeutes. Et encore plein d'autres stands, plein de surprises. Je ne vais pas vous faire la liste toute exhaustive, il faudra venir pour découvrir tout ça. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'il y aura une deuxième partie de soirée, avec cette fois-ci une conférence, là encore ouverte à tous, où vont intervenir successivement l'ensemble des praticiens qui interviennent dans la prise en charge diagnostique puis thérapeutique de ce cancer, avec notamment une médecin généraliste de la région qui va venir faire une présentation sur son rôle dans le parcours du patient et notamment sur la remise du test de dépistage et son fonctionnement. Ensuite, on verra un gastro-entérologue, puis un chirurgien viscéral, une radiothérapeute, et nous aurons aussi l'intervention de patients témoins qui vont venir évoquer, témoigner de leur vécu par rapport au diagnostic, mais aussi à la prise en charge du cancer colorectal qui les a touchés.
D'accord. Donc c'est une conférence de plusieurs médecins, c'est ça ?
Tout à fait.
Plusieurs médecins vont débattre peut-être aussi ou...
Exactement. Voilà, il y aura possibilité de discuter. Les personnes présentes pourront poser leurs questions et nous y répondrons avec grand plaisir.
D'accord. Et c'est quel jour ? Rappelez-nous le jour, la date.
Alors, il s'agira du mardi 28 mars 2023, donc à la salle des fêtes de Glaizé, qui est rue des Peupliers, avec le soutien très important de la mairie de Glaizé qui nous aide beaucoup. Et donc, ça commencera à 18h pour la première partie. Et la deuxième partie commencera à 19h30 et se terminera aux alentours de 21h.
Bien, très bien. Très belle initiative de sensibilisation et de prévention. Docteur, merci.
De rien.
Parlons équilibre touche à sa fin. À très bientôt sur Radio Calade 100.9.
Parlons.